Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile du Christ selon Saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
À ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement de la synagogue à Capernaum. Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclaraient: cette parole est vraie. Qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples se retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux douze: voulez-vous partir, vous aussi? Simon Pierre lui répondit: Seigneur, qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint. Acclamons la parole de Dieu.
De toi, Seigneur Jésus. Mes amis, nous avons trois lectures, comme à chaque dimanche, et je voudrais procéder par chaque lecture, par texte. Regardez, la première lecture nous est tirée du livre du prophète Josué. Alors Josué est à la fin de sa vie, il est aussi à la fin de sa mission. Il a fait traverser le peuple qui est sorti du pays de l'Égypte, il a fait traverser le désert, il a fait entrer dans la terre promise. Alors maintenant, ils sont arrivés dans la ville de Shittim. Alors il leur dit: voyez-vous, le Seigneur a tout fait pour vous. Maintenant, ici on est arrivé, il faut faire un choix fondamental. Avec tout ce que vous avez reçu, avec l'alliance du Seigneur, maintenant il faut dire oui ou non, vous optez pour Dieu. Il faut le faire librement. Alors, il dit au peuple: le Seigneur a fait alliance avec vous, maintenant décidez-vous. Et le peuple a décidé: oui, ce sont les paroles de vie et nous allons les prendre, nous allons les suivre. Shittim est un endroit très symbolique. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où Abraham a vu Dieu, le vrai Dieu, pour la première fois. Il a fait alliance avec Dieu. Shittim, c'est aussi l'endroit où Jacob a eu son songe, où il voyait les anges descendre du ciel monter. Et il a bâti après un hôtel à cet endroit-là, à Shittim. Plus tard, on va construire un puits qu'on appellera le puits de Jacob à Shittim. Et vous vous rappelez, au chapitre 4 de l'évangile selon Saint Jean, Jésus va rencontrer la Samaritaine autour du puits, le puits de Shittim. Donc moi je me dis, regardez, nous autres là, nous avons notre Shittim. Notre Shittim, c'est l'église ici, c'est la paroisse Saint-Gabriel où chaque jour nous rencontrons le Seigneur. Je veux dire, cette paroisse-ci, notre église où nous venons, il faudrait qu'en venant dans cette église, chacun, chacune de nous se rappelle toutes les églises qu'elle a connues. L'église où tu as été baptisé, l'église de tes parents, la paroisse où tu as fait baptiser tes enfants, la paroisse où tu as fait baptiser tes petits-enfants, la paroisse où tu t'es marié. Tout se résume où tu pratiques ta foi aujourd'hui. C'est ton Shittim. C'est-à-dire que quand tu reprends à chaque dimanche ta vie, quand tu viens entendre la parole de Dieu à ton Shittim ici, c'est le moment de renouveler ton engagement d'une manière libre et de dire que tu veux suivre le Seigneur quoi qu'arrive, que tu t'orientes à mettre en application ses paroles. Voilà ce que, à chaque dimanche, le Seigneur nous demande à notre Shittim. Moi, ce qui me frappe dans l'histoire de Dieu, c'est que Dieu nous laisse toujours libres. Tu peux te lever aujourd'hui et dire non à Dieu. Il ne va pas te poursuivre avec des coups en arrière, du tout. Il veut que l'amour soit libre, que tu dises oui, librement, sincèrement, de tout ton cœur, et que tu t'y engages. Le psaume est magnifique, hein, qu'on vient de chanter le refrain. Il dit « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon ». Justement, pour faire le choix, il faut quand même goûter le Seigneur. Quand tu as goûté, alors tu dis « Oui ». Ou non. Parfois, quand nous allons au Loblos, aux certains endroits, tu trouves des coins où on te donne des petits bouts là, des choses en mode de boucher, hein, tu goûtes. Ça me sur cette saucisse là, l'autre tu achètes. Tu vois, hein? Alors, en fait, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Alors, tu goûtes? Non, moi j'opte pour le Seigneur. Tu entends sa parole? Non, j'opte pour lui pour toujours. Voilà, c'est lui qui donne sens à ma vie. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes invités à renouveler notre foi dans le Seigneur. La deuxième lecture tirée de l'épître aux Éphésiens, nous le connaissons très bien. D'ailleurs, dernièrement, j'avais un mariage à faire. J'ai demandé au fiancé, à la fiancée de choisir les lectures. Le fiancé a choisi cette lecture-là, où on dit « Les femmes, soumettez-vous à vos maris ». Alors, je me rappelle aussi que dans une de mes anciennes paroisses, c'était ce dimanche-ci où on devait lire cette lecture-là. Alors, la personne qui devait lire, c'était une dame. Elle est arrivée presque au moment où on devait commencer la messe. Elle m'a demandé de voir la lecture pour préparer un peu vite là. Je dis oui, regardez, on t'attend. Elle a regardé, puis elle est venue me voir avec le titre. Est-ce que c'est la deuxième lecture qu'on va lire aujourd'hui? On dit les femmes doivent se soumettre. J'ai dit oui, c'est ça la lecture. Non, non, moi je ne vais pas lire ça. Là, elle a laissé, j'ai dit ok, on a trouvé quelqu'un d'autre qui a fait la lecture. Ouais, vous, ouais. Donc, regardez, quand on réfléchit, on se dit en fait, Paul était marqué par la culture du temps. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Mais quand on regarde les choses de près, aujourd'hui, sans mâcher le mot, nous ne pouvons pas affirmer que la femme doit être soumise à son mari. On ne peut pas dire ça, on ne peut plus dire ça. Et puis, quand on regarde Saint Paul, tel qu'il s'exprime lui-même, ce qui est révolutionnaire, à mon avis, dans le texte de Saint Paul, c'est qu'à ce moment-là, il disait aux hommes, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire quoi? Donnez vos vies à vos femmes. Soyez disponibles à 100% à vos femmes. Crucifiez-vous pour vos femmes. Mourez pour vos femmes. C'était ça en fait qu'il disait, comme le Christ a fait pour l'Église. Ça, je trouve révolutionnaire. Par contre, aujourd'hui, il faut garder l'équilibre. De même que le mari meurt pour sa femme, la femme doit mourir pour le mari. Donc, il faut garder l'équilibre. En fait, l'amour du Seigneur, c'est quoi? Ce que le Seigneur veut dire, c'est ceci. Ce que Paul veut dire, en fait, l'homme et la femme, vous devez vous aimer comme le Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire un amour qui va jusqu'au bout. Tu te mets à la disposition de ton partenaire jusqu'au bout. Tu as la disposition de ton mari, de ta femme jusqu'au bout. Tu aimes ton mari, ta femme, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force jusqu'au bout, comme le Christ. Voilà en fait ce que Paul voudrait nous dire et pourquoi nous disons que le mariage est un sacrement. Voyez-vous, il y a toujours des difficultés qu'on peut trouver dans la manière de comprendre l'écriture, dans la manière de saisir. Par exemple, dans la lecture d'aujourd'hui, les gens sont choqués des paroles du Seigneur. Ils disent, comment est-ce que nous pouvons manger ta chair et boire ton sang? Et puis, cet homme-là, il dit qu'il est le fils de Dieu, nous savons qu'il est venu de Nazareth. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, certaines personnes ont commencé à abandonner le Seigneur, dit le texte. À partir. Et moi, ce qui me frappe, le Seigneur n'a pas mis du tout de l'eau dans son vin. Il n'a pas réduit le message. Il dit aux apôtres sont restés, est-ce que vous voulez partir vous aussi? La porte est là. La liberté. Même pour s'engager comme chrétien et chrétien, la liberté. C'est que c'est avec une adhésion libre. Je suis convaincu que cet homme-là apporte un sens à ma vie. C'est pourquoi moi, je me suis fait chrétien parce que je sens que c'est la vie que je trouve dans cet homme-là, dans l'évangile. Voilà pourquoi je suis chrétien. Voilà ce qu'il faudrait renouveler aujourd'hui. L'engagement, l'acceptation du Christ comme notre modèle. Même si des fois, nous ne comprenons pas tout. Moi, je ne peux pas dire que la Vierge Marie, quand jeune fille, l'ange lui présente, il dit « sera mère de Dieu », elle a tout compris à 100%. Du tout. Elle a fait confiance à la parole de Dieu. Oui. Elle a cheminé. Quand vous êtes marié, là, premières années, vous n'avez pas compris à 100% tout. Oui, j'ai confiance à la parole de Dieu. Dieu va m'aider, va me guider dans mon mariage. Quand on s'est baptisé, on était tout petit, on n'avait rien compris du tout. On a fait confiance dans la parole de Dieu. Dieu va nous guider. C'est une adhésion, c'est une confiance. On s'abandonne dans les mains de Dieu. On lâche prise et on est là et Dieu nous transforme. Alors c'est continuellement dans ce sens-là qu'il faudrait avancer. Alors, il faut reconnaître que dans notre cheminement, comme baptisés, comme fidèles, nous rencontrons des problèmes. Tu peux rencontrer des problèmes dans ta communauté paroissiale. Tu peux avoir des problèmes avec ton curé, tu peux avoir des problèmes avec moi aussi. Voyez-vous. Donc ça peut arriver qu'il y a des situations qui se posent dans une paroisse ou dans une communauté, mais il faudrait regarder l'essentiel. L'essentiel c'est, prenez ma chair, je suis source de vie, tes paroles sont les paroles de la vie éternelle. C'est là l'essentiel où il faut s'accrocher, comme le Seigneur nous le demande aujourd'hui. L'autre problème qui nous tracasse, qui nous préoccupe, c'est le problème dont le pape vient de parler. Vous savez que le pape a écrit une lettre le 20 août. Une lettre écrite à chacun, chacune d'entre nous, parce qu'elle est adressée aux fidèles de l'Église catholique. C'est sur les abus sexuels, sur les jeunes enfants, par les personnes consacrées, les membres du clergé, les prêtres, etc. Alors, une chose est certaine. Moi, je suis arrivé au Canada en décembre 1990. Déjà, à ce moment-là, on parlait des abus sexuels sur des jeunes enfants dans l'Église catholique. Et ça continue. Il y a des moments de silence, ça rebondit. Ça rebondit. Dernièrement, ça rebondit à partir de la Pennsylvanie. Hein? Alors, le pape, il est vrai, c'est vrai ce qu'il dit. Ce qu'il faudrait faire d'abord, il ne faut pas se cacher. Il faut reconnaître qu'il y a eu tort dans notre Église catholique. Que nous avons péché, nous avons honte. Il le dit et le répète. Il ne faut pas mâcher le mot, il faut être clair. Maintenant, le moment est arrivé de prendre une nouvelle orientation, de prier, de faire pénitence, de faire un effort pour créer un milieu où il y a la protection des jeunes, la protection des personnes vulnérables, des personnes âgées, comment les encadrer et comment créer une certaine sécurité dans nos paroisses, dans nos communautés, dans tout ce que nous sommes. Alors, il revient à chacun, chacune de nous de le faire. Souvent, j'entends, mais non, l'Église catholique ne fait rien, elle ne fait jamais rien. Alors, tu entends des critiques comme ça. D'ailleurs, certains, même la lettre que le pape a écrite, qui est une très belle lettre, une très belle invitation à se régénérer, à se purifier. En gros, mais non, il n'y a rien de pratique, il ne fait rien. Regardez, le diocèse d'Ottawa, que je connais bien. Je vous ai dit, je suis arrivé en 90. Quand on est arrivé, je suis arrivé en 90, jamais on demandait aux prêtres de faire la vérification policière. Maintenant, on nous demande de faire régulièrement la vérification policière depuis 6 ans, je crois, maintenant. Voyez-vous ? Donc, on est en train d'essayer de créer un climat où les choses, bien, se réconcilient et puis se crée un milieu où tout le monde est à l'aise. Hein? Toujours parlant du diocèse d'Ottawa. Moi, je suis responsable d'une région. Une fois, j'avais été appelé au diocèse 2 ou 3 fois pour assister à une session où on nous entraîne, ce sont des psychologues, des spécialistes qui nous disent comment il faudrait encadrer une situation où il y a des enfants qui sont abusés, comment parler avec eux, comment les interroger, comment les interviewer. Donc, on essaye d'aider. D'ailleurs, j'ai entendu dernièrement Monseigneur Prendergast, notre évêque, à la radio. Il est à Irlande, où le pape se trouve. D'ailleurs, il va quitter aujourd'hui le pape. De toute façon, Monseigneur Prendergast, on lui pose la question sur la lettre du pape, on lui dit qu'est-ce qu'il fait au diocèse. Mais puis, il dit beaucoup de choses qu'on fait, c'est ce que je viens de vous raconter là. Ensuite, lui-même dit, depuis tous ces problèmes-là, il n'ose pas, il ne peut pas prendre un jeune seul dans son auto. Lui, c'est catégorique, il ne fait plus ça. Quand quelqu'un le fait arrêter ou demande, non. Et il conseille aussi de faire la même chose. Quand il reçoit, dit-il, des séminaristes pour parler, même au repas, il ne le fait plus chez lui. Il préfère prendre une paroisse, à inviter le prêtre, quelques membres de la paroisse, et on le fait ensemble. Une fois, je me rappelle, on était invité comme prêtre ici à Ottawa d'aller dans une école pour les confessions. Alors, l'école nous disait, non, c'est bien, on va mettre chaque prêtre dans une salle avec les enfants pour la confession, comme ça les enfants deviennent individuellement. Tout le prêtre a dit, non, nous voulons que ce soit au gymnase, ouvert, avec tout le monde. Chaque prêtre dans un coin, les enfants défilent et font la confession. Donc, pour dire qu'il ne faut pas dire que rien ne s'est fait, il y a cette préoccupation chez beaucoup de prêtres, il y a cette préoccupation dans l'Église catholique de vouloir faire les choses correctement. Il y a eu des abus, il y a eu des erreurs dans le temps, c'est vrai. Mais il y a eu un effort qu'il faut aussi reconnaître, qu'on est en train de vivre et qu'il faudrait encourager par la prière, par l'appui, etc. Une autre chose, on a demandé aux prêtres d'Ottawa, peut-être dans les autres diocèses, dans nos bureaux, il ne faudrait pas que ce soit une porte obstruée. Donc une porte en fait sans rien, sans ouverture. Si vous allez à ma porte où je reçois les gens, il y a une ouverture, forme de vie, tu peux voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça c'est exigé. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire tout simplement que nous ne dormons pas. Il y a un travail, un effort qui s'est fait dans ce sens-là. Donc, ce que le pape demande en fait, c'est que tous les baptisés se mettent ensemble, qu'ils prient pour la transformation de l'Église, pour la purification de l'Église, pour qu'on crée, on recrée un milieu où tout le monde se sente à l'aise, tout le monde écoute la parole de Dieu, où les plus vulnérables se sentent protégés, encadrés, et que tout puisse avancer comme il se doit. Conclusion, Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors c'est ce qu'il faut reconnaître en Jésus-Christ, qui vient nous nourrir dans nos âmes, dans nos corps, dans nos esprits. Une expression que j'ai beaucoup aimée ici, et que j'ai commencé à utiliser aussi, c'est quand on dit, vous nous manquez. Oh, vous allez nous manquer. Hein? Moi je me dis, à chaque dimanche, nous manquons beaucoup et plusieurs personnes baptisées qui ne viennent plus. Pour une raison ou une autre, ils ne viennent plus avec nous. Nous les manquons. Voyez-vous. Alors ce qu'il faudrait, c'est justement demander au Seigneur qui est la source des paroles éternelles, que dans sa force, dans son amour, qu'il nous donne, qu'il nous permette de reconnecter avec toutes ces personnes-là, pour que nos communautés deviennent de plus en plus vivantes et que nous soyons des signes et des moyens, des véhicules pour faire passer ces paroles éternelles à tout le monde. Que la célébration de ce matin, que l'Eucharistie que nous allons prendre vienne nous nourrir, nous transformer de l'intérieur pour que nous-mêmes, nous soyons toujours au service des autres. Amen.